Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charline.
Oui, on sait, t'es content.
Oui. On reçoit Pierre Ninet.
Ah bah, et voilà. Oh, il a une belle carrière quand même.
Oui, ça va. Fait, nous aussi, on a fait le cours Florent.
Hein. Ah ouais, c'est parce que je dis, il a une belle carrière. Lui,
oh, hein. Les cours Florent, ça garantit pas non plus une qualité de jeu exceptionnelle.
Hein. Non. Non, ça vous en êtes la preuve. C'est
sûr. Ouais, oh, ça va. On va pas se laisser insulter par un gamin qui débute.
Et là, oh, c'est bon. Attends, écoute son palmarès. Yves Saint Laurent, France, La Promesse de l'Aube. César du meilleur acteur 2015.
Ah, ils lui ont donné finalement.
En tout cas, moi, j'avais pas voté pour lui.
Toi, tu votes pour les Césars.
Bah, sur Allociné, tu peux donner ton palmarès.
Et puis bon, bah voilà, il est pas mal, quoi.
Oui, pas mal. C'est pas Alain Delon non plus.
C'est vrai, ça, il est beau, mais pas parfait. Bah, il a du charme, quoi.
Le charme, c'est relatif.
Vous vous rendez compte qu'il a joué Yves Saint Laurent?
Oui, bah c'est un sacré coup de bol, parce que vu comment il s'habille en général dans la vie.
Ça, c'est sûr qu'il a dû préparer le rôle. S'immerger dans le bon goût, ça a dû faire du bien.
Il prépare ses rôles. Il est musclé pour jouer un pompier dans son dernier film.
Musclé.
Moi, on m'a dit qu'apparemment, il payait son coach pour soulever les poids à sa place.
Si c'est ça, vous payez pas assez le vôtre.
Hein. Oh, c'est malin, bravo.
Et puis il est drôle. La série casting là, qu'il a co-écrite, c'était tellement marrant.
Oui, bah ça va, c'est bon. Excuse-moi, Charline, mais je craque, quoi. Ça va. Oui. Il joue mieux que nous, il est plus beau. En plus, il est drôle.
Tu crois que c'est facile, toi, pour nous d'être des sous-ninés?
Mais non.
Se lever le matin en se disant qu'on n'atteindra jamais Saint-Pierre de la perfection.
Mais les garçons,
Ah, on t'a bien eu. On a joué hyper bien.
On jouait, t'as rien vu.
Ouais, bah il y a une chose est sûre, c'est que vous êtes vraiment plus conclu. Bonjour la France Inter, nous sommes le lundi 26 novembre 2018, voilà déjà 6 jours que Carlos Ghosn est en détention au Japon. On t'oublie pas gros. Et voici les 3 actualités qui seront en promenade jusqu'à 18h. Les pompiers américains sont enfin venus à bout des incendies en Californie, après 2 semaines de lutte. Alors dans les casernes françaises, on en prend de la graine.
Mon dernier petit bijou, le tuyau auto-enrouleur. Tu tires un coup sec et il se rembobine à 9 mètres secondes, 32 km/h.
La poésie est l'un des outils qui permet aux malades ou aux blessés de se reconstruire. Ces bienfaits sont connus depuis longtemps, mais aujourd'hui ils sont mesurés, aussi précisément que le nombre de pieds dans un alexandrin.
Je peux te dire un court poème?
Oui.
Le ciel.
C'est joli.
Je suis pas très sûr du début.
Le premier tableau produit par une intelligence artificielle, le portrait d'Edmond de Bellamy, a été adjugé chez Christie's pour 380 000 euros.
Combien ?
Et ça lui a fait un choc, lui qui tente de créer un algorithme pour sélectionner ses brèves. Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Charline Van Hunaker. Eh bien c'est lundi, j'ai une belle équipe. À 17h20, celui qui, quand on lui dit un pompier, ne pense pas immédiatement à un soldat du feu, c'est Hippolyte Girard, bonjour.
Non. C'est l'art pompier.
Si,
c'est l'art pompier d'Alex Vizorek. Ouais.
Comme ça, c'est fait.
Comme ça, c'est fait, exactement. Eh bien, moi, j'ai vu le film et j'ai vu Pierre.
C'est pas vrai, très bien. 17h30, celui qui, comme il n'a pas un physique à faire pompier, a choisi pyromane du verbe. C'est Guillaume Meurice.
Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler des emballages plastiques. Je suis allé voir des professionnels du secteur et on a parlé notamment des bouteilles en plastique.
Qu'est-ce qu'on fait, les gens qu'on fait pipi dedans?
Ah, il a croisé Depardieu après, ouais.
Et à 17h40, celle qui aime le feu, surtout quand il sert à flamber les crêpes au Grand Marnier, c'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
Je suis très heureuse, je vais vous parler d'un inédit de James Baldwin.
Très bien.
Et voici celui qui va donc présider cette séance. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, roulement de tambour, vous êtes...
Je suis Pierre Ninet.
Oui.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Pierre Ninet.
Merci.
Nous sommes heureux de vous accueillir, d'autant plus pour ce film qui s'appelle Sauver ou Périr, film de Frédéric Tellier qui sort en salle mercredi, où vous jouez notamment avec Anaïs de Moustier, Chloé Stéphanie ou Samy Boisgila, entre autres. Vous êtes Franck, un jeune sapeur-pompier à Paris, ambitieux, jeune papa de jumelles qui vit à la caserne. Voilà, c'est la vie de famille là-bas. Il réussit le concours, il est promu et sur son premier feu comme chef, un feu extrêmement grave dans un entrepôt. Pour sauver ses hommes, il se sacrifie, il est gravement brûlé, notamment au visage. Voilà pour le début du film et le basculement. C'est l'histoire d'une reconstruction.
Ouais.
Un thème que vous dites universel, car là vous êtes grand brûlé, mais la reconstruction pour les malades, les accidentés, etc. C'est un thème tout à fait universel. On C'est difficile de s'empêcher de voir un parallèle un peu avec la chambre des officiers, les soldats de la guerre 14 et les gueules cassées. Votre personnage, dans le fond, est une gueule cassée.
Oui. Oui, complètement. Oui, c'est la question de l'identité qui est au cœur vraiment du film que voulait faire Frédéric Tellier, le réalisateur. Depuis le début, moi, il m'a dit, je veux faire une grande histoire d'amour à l'épreuve de la vie, à l'épreuve de choses, de la fragilité de l'existence humaine, et en même temps, une quête d'identité qui passe à travers des choses que moi, je trouve extrêmement cinématographiques. La question très profonde de se dire qui est-on, et puis de se dire qui est-on quand on se reconnaît plus dans le miroir physiquement, très, très concrètement, et c'est une thématique que moi j'adore, qui parcourt le cinéma, de Elephant Man à Frankenstein, la monstruosité, l'héroïsme aussi dans la première partie du film avec les pompiers qu'on a beaucoup fréquenté pour préparer le film. Donc il y avait un peu tout ça, et effectivement, comme vous l'avez dit, sur la reconstruction.
À la différence par rapport à la chambre des officiers, c'est qu'ici le film porte aussi beaucoup sur le choc que ça produit dans la famille, la cellule familiale bouleversée, l'entourage, le fait que vous aussi vous puissiez vous reconstruire grâce à cette famille, c'est aussi tout cet aspect-là qui est sous-jacent dans le film.
Oui, complètement. C'est aussi ce que j'aime bien dans ce qu'il a fait. C'était l'idée de pas montrer tout ce qu'on voit toujours d'habitude sur les pompiers, pas montrer ce qu'on voit toujours d'habitude sur le côté. Il y a un accident, il y a une victime. Comment cette victime elle le vit ? Alors évidemment le film c'est ça, mais c'est aussi, en fait, il y a des victimes collatérales et un petit ou un grand accident, une petite ou une grande épreuve dans la vie, on en a tous connu, on va tous en connaître. En fait, il y a la première personne évidente qui est touchée. Puis après, il y a aussi un cercle autour, le conjoint, la conjointe, les familles, les enfants. Et là, c'est le cas. On voit comment Franck va composer avec ça, va devoir re-rencontrer sa femme presque. Ils doivent se redéfinir en tant que couple complètement, profondément. Et voilà, et moi, j'étais super heureux de faire ça avec Anaïs de Moustier, que je trouve extraordinaire là-dedans dans le film. Justement, un rôle qui n'est pas évident et qui est quelqu'un d'un coup qui dit « en fait, moi aussi, je souffre. Moi aussi, j'ai des doutes et c'est légitime d'en avoir ».
Alex,
il y a deux rôles à jouer, parce qu'il y a l'avant et l'après. Et dans l'avant, vous jouez quelqu'un de normal, ce qui ne doit pas être si évident que ça.
Un héros même.
Oui, mais il ne l'est pas encore vraiment à ce moment-là. Il est chez lui à la maison, il gère sa femme, sa fille.
Il est quand même pompier, c'est déjà héroïque.
J'entends bien.
Mais c'est intéressant.
Mais après, il y a vraiment quelqu'un d'anormal à jouer. Et donc, comment vous avez bossé la différence? Déjà, jouer quelqu'un de normal. Quand on travaille Yves Saint-Laurent, on ne joue pas quelqu'un de normal. Ici, vous avez dû faire ça.
C'est vrai que moi, je cherche des rôles qui sont loin de moi, qui sont des gens que je peux presque ne pas comprendre d'emblée. Moi, j'aime bien l'idée de comprendre quelqu'un que je ne suis pas du tout. Je trouve que c'est une démarche qu'on ne fait pas beaucoup dans la société, finalement, d'essayer de comprendre quelqu'un. A priori, on se dit, cette vie-là, je ne la connais pas du tout, c'est très loin de moi. Voilà. Évidemment, l'intérêt pour moi, c'est de faire ce chemin entre moi et le personnage qui me sépare grandement de cette personne. Mais je suis d'accord, il y a deux héros dans le film, en fait. Et en fait, derrière chaque personnage, presque, Frédéric Tellier a caché un héros. Et ce que j'aime bien, c'est que le message, c'est de se dire, en fait, on peut tous être des héros du quotidien, entre guillemets, on peut tous être sauveteurs de l'autre si on le veut, et on peut tous être victimes aussi. En une seconde, on peut basculer dans le camp de ceux qui sont abîmés, de ceux qui sont fragilisés, vivre la perte de quelqu'un, une maladie, petite ou grande, peu importe, c'est une épreuve de toutes les façons. Mais je suis d'accord sur le fait que vous ne soyez pas d'accord. Je joue un diplomate dans le prochain film.
Il est très macroniste.
Non, mais je veux dire, moi aussi, je pense qu'il y a deux héros dans le film, mais on peut s'attacher plus à l'un, plus à l'autre, on peut comprendre les deux. Il y a un pompier, héros du quotidien, évident, entre guillemets, même si je pense qu'on les redécouvre dans le film. Et puis après, il y a cet homme brisé qui, en fait, d'un coup, va avoir peut-être encore plus conscience de l'essentiel, plus conscience du fait que des grandes choses de la vie se cachent dans des petites choses qu'il voyait peut-être pas avant. Donc là, il y a un second héros qui arrive, effectivement.
Sur un aspect plus anecdotique, qui en même temps, comme on dit, ne l'est pas, c'est que vous avez suivi quand même les pompiers sur de nombreuses interventions. C'est un rôle que vous avez beaucoup travaillé, même physiquement. Et vous avez suivi, pour comprendre comment ça fonctionnait, sur des théâtres d'intervention, donc des choses douloureuses aussi, et réelles. Ça n'a jamais troublé les interventions, parce que vous êtes quand même Pierre Ninet. Quand il y a un accident et que les pompiers arrivent et qu'il y a Pierre Ninet, je ne sais pas si j'aurais totalement confiance.
Les gens vont beaucoup mieux d'un seul coup. Un selfie.
Comment est-ce qu'on épouse leur travail pour aller les observer sans troubler les choses? Parce que quand même, vous êtes très reconnaissant.
Mais on rigolait beaucoup là-dessus, parce que j'avais un formateur qui était le caporal-chef Badi, et je lui disais, le pire truc qui pourrait arriver, c'est qu'un mec me reconnaisse juste avant de mourir et me dise, j'ai détesté Yves Saint-Laurent. Et que ses derniers mots soient vraiment juste pour me dire qu'il a détesté ma filmographie. Donc on a eu des situations, pas celle-là, mais on a eu des situations de mecs avec la tête ensemble qui disaient c'est un acteur et tout. Enfin bon, on a eu des situations un peu cocasses alors que j'étais vraiment les cheveux rasés, en retenue, dans le camion, que je me faisais le plus discret possible évidemment, parce que le but c'était qu'il travaille bien. Moi j'étais juste un observateur.
Comme Alexandre Benalla, quoi. Il préparait son rôle pour être policier.
Ouais, j'étais plus en observation que ça.
Si vous voulez voir ce que sont des performances d'acteurs, oui. Pierre Ninet dans Sauver ou Périr de Frédéric Tellier sort en salle mercredi. Et vous aimez Jean-Yann ?
Moi j'adore Jean-Yann.
Ah bah j'espère bien alors.
Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris, en plein dans la gueule des flics au regard surpris, quand ça gueule du sac, lorsque partout l'on entend le bruit des matraques sur les crânes intelligents, dans la douceur de la nuit, le ciel m'offre son abri, et je pense à Jésus-Christ, celui qui a le ciel calme, l'avion par-dessus les toits verse son napalm sur le peuple indochinois. Quand c'est la fringale, lorsqu'en place d'aliments, les feux du Bengale cuisent les petits enfants. Dans la tiédeur de la nuit, la prière est mon appui, car je pense à Jésus-Christ, celui qui a
France Inter aussi. Vous écoutez Par Jupiter. Et c'est Pierre Ninet, notre invité, qui joue dans Sauver ou Périr, qui est d'ailleurs la devise des pompiers.
De Paris.
De Paris, hein, précisément. Film de Frédéric Tellier qui sort en salle mercredi avec notamment aussi Anaïs de Moustier ou Calypso Beutenheus.
C'était bien audacieux de partir sur cette personne du casting.
Et Vincent Rotine notamment. Pour entourer Pierre Ninet.
Oui, eh bien, il y a Hippolyte Girardot, il y a Juliette Tarnot et Guillaume Meurice qui parlera de Gourde. Et connaissant un petit peu sa vie sexuelle, on a un avis de
professionnel. Allez, d'accord, okay, on parle là-dessus.
Allez, vaut mieux entendre l'info que d'être sourd. Hein.
Je ne vais pas chercher des fusibles parce que vous avez envie de voir du sang et des larmes.
Dans le journal de presque 10 ans.
Vous avez vu la foudre !
Et on commence par les titres.
Pendant que la manifestation dégénérait à Paris, celle des Gilets jaunes, bien sûr, Anne Hidalgo a posté un tweet, effacé ensuite, dans lequel elle invitait les gens à venir admirer les illuminations des Champs-Élysées.
Ah bah c'est clair que les Champs-Élysées étaient illuminées samedi, fumigènes, gyrophares et Gilets jaunes.
Législative partielle en Essonne, le maire d'Evry, Francis Chouat, soutenu par La République En Marche, succède à Manuel Valls.
Et oui, après Manuel Valls, il ne pouvait pas faire un plus mauvais choix, de toute manière. Hey, et jeu de mots.
Les brèves.
Oui, Pierre Ninet est venu spécialement pour les brèves.
Ouais,
non, mais prenez un air sérieux.
Est-ce que je dois rebondir?
Jouer
ou...
le rôle. Non,
pas forcément.
Non, okay. Prenez un air sûr
qui
de
ne
vous.
Dit mot,
ça marche. Et commençons par les images qui ont tourné en boucle sur toutes les chaînes d'info ce week-end. Les Champs-Élysées ont été le théâtre de violence. Vous imaginez l'image qu'on a renvoyée aussi aux étrangers sur place.
Ouais, vous voulez dire les Chinois ou les Saoudiens qui faisaient leurs emplettes dans le quartier?
Non, je pense plutôt aux migrants. Les Syriens ont dû se demander pourquoi avoir fui le pays si c'est pour avoir l'impression de se retrouver au centre-ville d'Alep.
Évidemment. Gilets jaunes toujours. Oui. Certains leaders ont peur que le mouvement se politise trop.
Notamment Benjamin Cauchy, qui sur BFM TV a proposé de créer une branche plus apolitique.
Je sais que des centaines de personnes souhaitent effectivement se dégager des gilets jaunes, et donc je les invite à les rejoindre sur un mouvement qui s'appelle Citron.
Citron.
Citron, puisque on en a marre d'être pressé et on ne veut pas de pépins et on est jeune.
Voilà. Quelqu'un qui a beaucoup de vitamine C déjà.
Politique ce matin. Oui. François Hollande était au micro de France Inter.
Et c'est vrai qu'on a beaucoup dit qu'il avait rien fait pendant son quinquennat. Et ben c'est pas vrai.
Je ne supportais pas comme président que l'Élysée reste allumée, que des bureaux restent allumés la nuit. Je faisais moi-même le tour pour éteindre la lumière au niveau de mon étage.
Et voilà, il n'a pas inversé la courbe du chômage, mais en ce qui concerne la facture d'électricité de l'Élysée, il a plein de bossé.
Politique toujours. Oui. Sur France Info, le porte-parole Rassemblement National.
Je ne voulais pas le dire.
Oui, là, FN, ouais. Quoi. FN, disons-le. Bah oui. Jordan Bardella s'est dit disponible pour mener la liste du parti aux européennes.
Ouais, je pense qu'on dit Jordan, à mon avis, mais je ne suis pas plus sûr que vous. Jordan Bardella, c'est donc dit disponible pour être indisponible à Bruxelles.
Ah, bah
et
voilà.
Ça, c'est chapeau.
International.
Oui, à Barcelone, Manuel Valls est à fond dans la campagne. Et quand, paf, l'inattendu, une journaliste lui pose une question. Alors attention, je crois que vous allez trouver. C'est du catalan, essayez de comprendre.
Una última pregunta que segur que els interessa molt als ciutadans de Barcelona. Sap quan van el bitllet de bus o la T10 del metro?
Eh oui, elle lui a demandé le prix du ticket de métro.
Et qu'est-ce qu'il a répondu? Et
il a répondu 49,3, parce qu'il a dit que c'était pas une bonne question et il a demandé de changer.
Affaire Carlos Ghosn, oui. Après Nissan, Mitsubishi Motors évince à son tour le président.
Oui, j'espère qu'il n'est pas censé toucher le chômage en France, Carlos Ghosn, parce qu'au niveau de sa rémunération, Pôle emploi met la clé sous la porte directement.
En sport, la Coupe Davis, la France s'est inclinée en finale contre la Croatie.
Ouais, mais c'est très très malin. Ça aurait été idiot d'organiser la descente des joueurs sur les Champs-Élysées aujourd'hui. C'était très très malin ça.
Et c'était la dernière de Yannick Noah à la tête de l'équipe de France qui a annoncé qu'il arrêterait le tennis pour de bon.
Ah merde, c'est triste.
Ah, vous trouviez qu'il faisait un si bon capitaine que ça?
Bah non, c'est qu'il va nous sortir un nouvel album.
Ah oui. allez, des brèves, allez. Ouais.
Indonésie, des ados se droguent en faisant bouillir des serviettes hygiéniques. Hein? Ah oui, c'est l'info. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se droguent qu'une fois tous les 28 jours. Et ça, c'est déjà bien.
Et la dernière,
une étude parue ce lundi révèle que 22% des Français actifs présentent des risques de troubles mentaux. Ça fait 1 sur 5. Oui, Hippolyte me regarde bizarrement. Et oui, comptez. C'est clairement pas juste si on regarde autour de la table.
Merci, c'était brillant.
Il y a eu de tout.
17h25 sur France Inter. Pierre Ninet a la gentillesse de bien vouloir rester malgré tout ça. Oui. On vous remercie. Alors, on va aborder ce premier sujet avec vous.
C'est en le voyant en classe libre à Florent que je me suis dit peut-être va vers les brèves. tout ce qui est
la bifurque, ça s'est passé là.
Interprétation, c'est plutôt lui.
C'est donc à vous qu'on le doit. Très bien. Alors, plus sérieux, les pompiers.
À l'inverse, il est nul en brève.
À chier. Total, j'ai une admiration sans borne. En vrai. En vrai.
Vraiment gentil.
Et en plus, il est gentil. Les pompiers ont enfin maîtrisé l'incendie en Californie au bout de 2 semaines. C'est énorme, ouais. 85 morts, presque 300 personnes encore portées disparues, 14 000 habitations détruites, une situation dantesque. Alors, appelée à se reproduire à cause du réchauffement climatique. Et quoi qu'en dise Donald Trump, bien sûr. Mais enfin, voilà, c'est enfin derrière, c'est maîtrisé. Les Californiens peuvent souffler. Merci aux pompiers.
Ça, c'est pompiers. Non. Ça, c'est les pompiers, ça, c'est... Non, les pompiers, ça fait si là, si là. La police, ça fait ré là, ré là.
Ça, c'est si là, si là, si là.
C'est ré là, ré là.
Ça, c'est si là, si là, si là.
Non, c'est ré là, ré là.
C'est le grand restaurant. Voilà, c'est le soulagement, parce que la maîtrise de ce feu, quand même, c'est un énorme soulagement. Vous qui avez tenté d'éprouver ce que peuvent ressentir les pompiers, est-ce que ça vous a rendu plus sensible à ce sujet, l'enfer des incendies, le combat des hommes face au feu qui a duré 2 semaines? Est-ce qu'en voyant un peu ce qui s'est passé là-bas et en sortant de ce rôle, enfin, ça fait un peu un moment que vous l'avez tourné, bien sûr, mais j'imagine que vous êtes plus sensible.
Oui, de toute façon, en règle générale, avec les pompiers, maintenant, je ne vois pas du tout la même chose quand j'entends le fameux Rella passer dans la
rue. C'est vrai.
Oui, c'est pas un Rella, je crois, mais. passer dans la rue, je vois plus du tout la même chose. Maintenant, j'ai eu la chance de passer du temps avec eux. Sur les incendies, il y en a eu au Portugal aussi, où il y avait des photos sur Internet qui avaient circulé. On les voyait dormir par terre, les pompiers, les pauvres, parce qu'ils étaient exténués et qu'ils essayaient de récupérer pendant une heure ou deux pour repartir. Voilà, c'est des métiers de passion, c'est des métiers de vocation. Et c'est dans ce genre de cas. Enfin, ce qui est horrible, c'est que que ça va se reproduire, on le sait, quoi. Mmh. Au rythme où on va avec la planète, c'est sûr que ça va se reproduire et qu'on va être dépassé. Mais je trouve que c'est un engagement tellement beau, tellement absolu, en fait. C'est l'idée d'absolu que je trouve magnifique dans l'empathie. Et puis, juste par rapport aux incendies, c'est des techniciens extraordinaires. Moi, ils m'ont mis dans des caissons de feu. C'est hyper impressionnant. C'est vraiment des températures qui montent. J'avais jamais connu ça de ma vie, quoi. C'est la rapidité à laquelle ça monte. C'est-à-dire des grands caissons où ils mettent des flammes de 8-9 mètres à l'intérieur. Et moi, je devais éteindre ça. C'était complètement dingue comme expérience. Maintenant que j'y pense, c'était totalement absurde. À Villeneuve-Saint-Georges, qui est leur centre de formation à côté de Paris. Et c'est des techniciens du feu, ils en parlent. Déjà, tu comprends rien, alors que tu te pensais juste que c'était bon, bah les flammes vont aller par là, se propager. Tu pensais que c'était le mot le plus technique que t'allais entendre de la journée, mais pas du tout. Ouais, c'est des techniciens, donc ils parlent des fumées, ils analysent chaque étincelle, comment le feu il se déplace, comment des trucs, mais complètement dingue. C'est vraiment des vrais techniciens très très pointus sur le feu. C'est admirable.
J'ai l'impression que pour le barbecue de fin d'année, ce serait peut-être bien qu'ils viennent.
Oui.
C'est une petite notion du feu.
Non, mais c'est la connaissance et notion de s'imaginer ce qui a pu se passer là-bas est quand même simplement dingue. Mais
rappelons que sur le tournage d'Yves Saint-Laurent, vous étiez blessé avec une aiguille. Vous faites toujours des rôles.
Oui, je suis prêt à prendre tous les risques.
Il y a une scène de feu d'entrepôt au début du film qui fait basculer le destin de votre personnage, Franck. C'est une longue scène d'incendie très très impressionnante à l'écran. On est curieux de savoir comment ça se tourne sans dévoiler tous les secrets.
Mais c'était, moi ce que j'aimais bien, c'est que c'était déjà l'idée d'un film français, intime, avec des scènes vraiment intimes. Et d'un coup, quand il y a une scène d'action, entre guillemets, c'est pas éludé, c'est pas symbolique, c'est vraiment, on y va à 200%. Et le réalisateur a voulu faire ça de la manière la plus authentique possible, donc ça veut dire le moins d'effets spéciaux, donc du vrai feu, très peu de doublures. Il y a un plan avec une doublure, c'est tout, pour des questions d'assurance. Et sinon, on a tout fait pour de vrai. C'était 5 jours dans un énorme entrepôt. On devait aérer toutes les 20 minutes parce qu'il y avait des gaz toxiques et la chaleur ne nous permettait pas de tourner plus que ça. Donc c'était beaucoup de contraintes. On était avec des conseillers techniques qui encadraient toute la séquence tous les jours, des pompiers qui nous expliquaient, alors ça c'est réaliste, ça vous pouvez pas le faire, ça, hein, ça tu vas mourir si tu fais ça. Ce qui est bien, hein, toujours d'être cadré. Voilà, quand on a pour projet de continuer à vivre après le film. Et moi, c'était le cas. Et du coup, ils mettaient le feu à mes vêtements et tout. Enfin, c'était assez impressionnant et inédit pour moi. Mais je trouve qu'il y a une séquence vraiment sensorielle, sensationnelle au sortir de ça. Donc, ça valait le coup.
Ouais, je vous confirme. En tout cas, si vous croisez les pompiers dans la rue et qu'ils vendent leur calendrier, croyez-moi, une fois que vous aurez vu le film, vous l'achetez. Ça, je vous le dis. Mais alors, vraiment. Et puis, de toute façon, déjà, je pense que chacun dans la vie, on a été confronté aux pompiers qui viennent vous relever, déjà rien que ça.
Oui, puis
très bel hommage.
Puis on a tous vu Backdraft.
Oui. Il y a aussi Backdraft.
Évidemment. Tiens, si on passait à Hippolyte Girardot, qui a regardé le film aussi Sauver ou Périr de Frédéric Tellier, qui sort en salle mercredi.
Tout à fait. Cher Pierre, je suis un peu déçu en vous voyant. Non, ne vous méprenez pas, hein. Vous n'êtes pas décevant en général. Pour le verdict, on attendra le sketch. Et ça, c'est histoire de vous mettre un peu la pression. Non, moi, si je suis déçu, c'est parce que vous n'êtes pas torse nu.
Oui.
Enfin, oui, quand même. Mais non, mais c'est la pleine période des calendriers des pompiers. Et ces dernières années, ces calendriers, on les attend sans pouvoir dissimuler une vraie excitation, quoi, quand même. Ces calendriers sont aujourd'hui un prétexte à de très belles images d'abdominaux huilés, de triceps, biceps, pectoraux carrément bandants. Le pompier en devient un véritable fétiche érotique. Et dans le film, vous nous faites quand même quelques tractions en appartement, je dois le dire, qui nous montrent ce que votre torse pleine page eût donné. Passez-moi l'expression, Pierre, mais vous auriez mis le feu. Votre investissement physique dans ce rôle est impressionnant. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Votre dévouement au rôle, votre sincère respect pour le corps des sapeurs, le corps constitué, je veux dire, comme on dit, le corps diplomatique, et en jouer le rôle de Romain Gary, je sais que vous connaissez ce terme, force la nôtre d'admiration... Tant vous y mettez du cœur et de la loyauté, voilà. Comme le film, d'ailleurs, qui respecte ce qu'un tel film demande. Fred Tellier, donc le réalisateur, sait très bien raconter le feu de l'action, on en a parlé à l'instant. Anaïs de Moustier, avec ses seins, sait très bien raconter la tendresse, j'en mettrai ma main au feu. Et quant à votre personnage, il incarne la douleur, l'abnégation, la souffrance christique, grâce à votre talent, car oui, Pierre, vous avez le feu sacré. Le pompier est animé de ce qu'on appelle l'esprit de sacrifice, qui est une qualité devenue rare, à moins que l'on considère que renoncer à un deuxième gâteau à la crème pour Alex soit de même nature, évidemment. Et cet esprit de sacrifice tient en un slogan, sauver ou périr. Ce qui vous arrive, non à vous, mais à votre personnage, sans dévoiler les détails, en sauvant, vous périssez, ou presque. Franck, votre personnage ne sait plus comment vivre avec ce corps qui était son instrument de gloire. Et je repense d'ailleurs au calendrier par là. Et qui est devenu, aujourd'hui, à ce moment-là, le masque honteux d'un ancien héros. Il se consume à petit feu. C'est beau, mais c'est tragique. Oui, c'est surtout tragique. Comment vivre quand on a perdu sa raison de vivre? Et même si le beau visage de Chloé Stéphanie nous dit « pleurez pas », vous n'avez pas encore conscience des ressources que vous avez. Vous allez vous en sortir, je vous le promets. Faites-nous confiance. On ne mettrait quand même pas sa main au feu que la vie tienne cette promesse. Pas si facile de ranimer la flamme tout de même. Parce que dans le genre pipeau, moi je me souviens d'un truc, ça m'a fait penser, je me souviens de cette phrase prononcée par Jacques Chirac au sommet de la Terre. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était en 2002. Bah, il a bien fait de le dire, parce que maintenant, ça va quand même beaucoup mieux, faut le savoir. Hein, on a bien éteint le feu, on respire mieux, n'est-ce pas? Moi, j'ai le sentiment qu'on s'est bien reconstruit, voilà, on a eu un peu un gros coup de chaud, quoi, mais on a compris la leçon, et qu'aujourd'hui, en 2018, la planète va vraiment beaucoup mieux, que la maison brûle quand même beaucoup moins. Non, d'ailleurs, tout le monde a des gourdes ici, tout va bien. En plus, le slogan de notre ex-président, il l'a piqué à un groupe de rock australien, car Chirac était gros fan de Mad Max. Ah, c'est quand même le premier film gilet jaune de l'histoire, faut le savoir. Et de rock australien. Voilà. Et notamment de ce groupe qui avait écrit une chanson qui disait « Comment peut-on dormir alors que nos lits brûlent ?» Nos lits brûlent. C'est marrant, nos lits brûlent. Et c'était en 1987. On pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Alors les gars, si on veut pas périr, faut vite se sauver la vie.
Merci, Pauline Girardot.
C'était le coming out de
Pauline Girardot. Tu as dû à quelques calendriers, toi aussi. Caché dans ton tiroir, moi, je ne dirais rien. Non, ils sont tous dans des gourdes, effectivement.
Hommage au talent de Pierre Ninet et aux sapeurs-pompiers et à l'esprit de sacrifice, comme vous dites.
Franchement,
À l'honneur, à l'intégrité. Sauver ou périr de Frédéric Tellier.
Ce serait la devise de tous les pompiers, nous dit quelqu'un, qui est volontaire dans l'heure. Vous ne voulez pas le limiter à Paris, donc voilà. Vous donnez lui.
Ah oui, non, je pensais aussi que c'était que de Paris, mais
c'est. Il voudrait
se
l'approprier. Ah, sauver ou périr.
Ouais, exactement.
Je crois que c'était que Paris, moi aussi.
Restez avec nous, vous êtes sur France Inter. Et il y a Pierre Ninet qui est là. On a entendu Hippolyte Girardot, il y a Juliette, ils sont tous hilares autour de la table, j'ai dû rater une vanne.
Non,
mais
c'est
comme
pas
vous,
ça, c'est parce que Pierre a l'air sûr que c'est que de Paris, donc on va faire vraiment une énorme
D'accord,
recherche.
D'accord, on va faire une recherche. Allez.
On a le temps de chercher. Love for you, babe. And I had a problem start.
Bradley, Can't Fight the Feeling. Vous êtes sur France Inter et pendant le disque, Pierre Ninet a fait des recherches et nous confirme que sauver ou périr, c'est la devise des pompiers de Paris. Dans la France, c'est...
C'est courage et dévouement, c'est ce que je pensais, mais maintenant il y a un geek sur un forum qui vient de me mettre le doute quand même, ce qui m'arrive souvent tous les jours, hein, sur tous les sujets à peu près.
Alors, je sais pas comment est-ce qu'on peut résoudre
ça. On a l'air d'accord avec vous sur nos auditeurs. Par Jupiter, ils disent c'est courage et dévouement et celle de Paris spécialement.
En tout cas, resserre-moi un Ricard, c'est la devise des CRS de l'Essonne. Absolument sûr, rien à voir.
Vous avez le crachoir, Guillaume Meurice, profitez-en.
Eh ben, je vais vous parler de la semaine Agir pour ma planète. C'est sur Radio France toute la semaine et ça marche bien. Hein, ça marche super bien. Guy Lagache, il fait des économies sur le brushing, on l'a vu. Sybille Veil ne s'exprime plus qu'en langue de bois, mais du bois de coupe. Hein, forêt éco-gérée. Et même à plus haut niveau, ça bouge. Macron va créer un haut conseil au climat. Hein, c'est-à-dire que le gars, il a oublié qu'il avait un ministre de l'écologie quand même. Bon, en même temps, c'est de Rugy. Hein, donc je suis sûr que même lui oublie qu'il existe. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fout de Rugy ? Ah, c'est moi. Hein, c'est vrai que Pierre, si vous adaptez un jour au Cinoche l'être et le néant, pour le néant, pas besoin de casting, on a de Rugy. Alors aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement du plastique, parce qu'on en retrouve pas seulement dans les pommettes des stars du Festival de Cannes, on en retrouve dans le ventre des animaux, hein, notamment les animaux marins. On parle même d'un continent plastique, un continent en deux mots, hein, je parle pas de Bouteflika. Et les industriels du plastique, ils se réunissaient ce matin. Oh là là, la coïncidence. Je suis donc allé les voir, c'était le grand rendez-vous du packaging All for Pack. Et dès l'entrée, on est quand même bien accueillis avec le sponsor, regardez ce beau sac, Emballage Magazine, qu'on ne lit que trop peu, Emballage Magazine. À mon avis, il y a d'excellentes brèves dans Emballage Magazine. C'est un très bon sujet 3. Et voilà, ça te donne, voilà, il te donne un beau sac en plastique qui va faire donc le régal d'un dauphin, hein, on le jette. Eh bien, la filière plastique, elle essaye d'évoluer vers plus d'écologie, même si certains disent que non.
Si, on essaie quand même d'évoluer sur les choses, quoi. Mais c'est vrai que bon.
Alors, comment vous évoluez ?
On essaye d'évoluer, on fait avec ce qu'il y a, quoi.
Ouais, alors, plus concrètement.
Je sais pas du tout, enfin je peux pas vous répondre là-dessus. Hein.
Bon, en tout cas, vous essayez d'évoluer.
On essaye d'évoluer, exactement.
Voilà, mais attendez, parce que vous êtes marrant, avant d'évoluer, il faut essayer d'évoluer. Hein, on n'évolue pas comme ça, il faut évoluer d'abord vers l'évolution. Hein, ça, c'est technique. Donc là, on avait affaire au Darwin du polymère. Mais des évolutions, il y en a quand même au rendez-vous de l'emballage.
C'est un nouveau concept, en fait, qui a le mérite en plus d'être un peu écologique, puisque autour des paquets de bouteilles, on met ce qu'on appelle des fardeaux, on met un film. Ça, c'est une filmeuse de bouteilles.
D'accord. Et ça, c'est écologique, ça, de mettre un film ?
Ça reste du plastique.
Voilà, ça reste du plastique. Donc là, on parle d'un film plastique autour de bouteilles en plastique. Film plastique, hein, pas film de Fabien Antoniente, parce que les deux font des dégâts, hein, mais c'est pas les mêmes choses. Bon, alors ça reste soft. Allons voir les compotes pour bébé.
Il y a le produit que le bébé mange à l'intérieur.
Ouais.
Le pot, c'est du packaging.
C'est du plastique.
Le pack qui regroupe les deux pots, c'est du packaging.
Ouais, c'est du plastique
après,
encore.
C'est encore du packaging. On entoure les palettes avec du film...
plastique.
C'est le fan. C'est encore du packaging.
C'est encore du plastique.
Voilà, donc pour que la compote... qui est là, arrive jusqu'à la bouche du bébé, il y a à peu près 7 ou 8 couches de packaging.
Eh ben bravo les bébés ! Ça va, on se fait pas chier ! 8 couches de packaging sans compter les pampers, ça en fait des couches, saloperie de gosse ! Alors ces couches de packaging, est-ce qu'on pourrait pas en enlever tout simplement ?
Aujourd'hui, moi ce que je constate, c'est que les gens sont beaucoup plus intéressés par le prix, le coût.
Mais justement, si on enlevait du packaging, on gagnerait peut-être en prix ?
Là, faut demander aux industriels.
Mais vous êtes un industriel.
On fabrique des machines qu'on vend aux industriels.
Ah, chat perché, lui, il fait juste vendre les machines qui mettent du plastique partout. Hein, c'est comme les gens qui fabriquent des bombes à fragmentation. Hein, c'est quand même pas de leur faute si les gens les utilisent pas pour faire chauffer les nouilles. Bon, alors allons voir un autre industriel avec une question toute bête.
Est-ce qu'il faudrait taxer le plastique aujourd'hui ?
Alors ça, oui, c'est vraiment d'actualité.
Ben oui. Quel est votre avis, vous ?
Je vais rester neutre.
Faut préserver le business quand même.
Ah ben je voudrais quand même vendre encore un peu de machines.
Ah ben voilà, c'est peut-être ça le problème. Faut bien vivre. Alors pour défendre les entreprises du plastique, bah il y a un lobby, hein, comme on dit, notamment Elipso, les représentants des entreprises du plastique et de l'emballage. Alors j'ai demandé à son délégué général Emmanuel Guichard, si on consommait moins de plastique, est-ce qu'il y en aurait pas moins dans la nature ?
Alors si on consommait moins de plastique, est-ce qu'il y en aurait moins dans la nature ? Pas forcément, puisque ce qui est vraiment important, c'est que le déchet ne se retrouve pas dans la nature.
Si... Oui, mais mathématiquement. S'il y avait moins de plastique en circulation dans le monde, est-ce qu'il n'y en aurait quand même pas moins qui traînerait un peu partout ?
Alors, moins, par exemple, c'est on peut aussi faire des choses plus légères. Donc, si on fait des choses plus légères...
Oui, mais c'est pas bien ma question, ça.
Ah, votre question, c'est s'il y avait moins d'objets au total.
Ouais.
Non, pas forcément.
Bon, bah voilà, voilà, on est fixé. Oui, hein. Donc, on peut continuer à produire du plastique par milliards de tonnes. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on en retrouve partout. C'est ce qu'on appelle un hasard. Alex dirait, c'est pas de bol. Voilà. Bah, alors, d'ailleurs, le lobby du plastique est très écolo.
Alors, par exemple, là, vous avez une bouteille. Alors, c'est pour faire de l'huile de moteur. Eh bien, cet emballage d'huile de moteur et d'emballage plastique, bah, il contient 50% de matière recyclée.
Ouais, c'est l'huile de moteur totale.
Bah oui.
Oui, voilà, de l'huile de moteur totale dans une bouteille en plastique, 50% recyclée. C'est un beau symbole, là, je trouve, de là où on en est. Quand je vous dis que ça évolue, hein, vivement les fûts d'uranium en coton bio, les centrales à charbon entièrement en tofu. Hein, on a déjà, chez les industriels et au gouvernement, des écolos en carton.
Merci, Guillaume Meurice. Ouais. Et oui, et la question, c'est l'occasion de vous poser la question, Pierre Ninet, la question que tous les invités d'Inter à laquelle ils doivent répondre cette semaine. Et vous, que faites-vous pour la planète?
Très bonne question.
À votre niveau de... Voilà, de
très bonne question.
Ça peut être pour savater la planète. Hein,
c'est quotidien. Alors, oui. Est-ce que vous achetez en vrac? Comment vous circulez? Est-ce que vous achetez en vrac? Enfin, quels sont les petits gestes peut-être que vous avez intégrés au quotidien pour essayer de réduire votre empreinte?
Plein de choses. Plein de petites choses. Moi, je suis très concerné. Je trouve ça super de le faire en humour. vraiment, non, mais c'est top.
Vous aimez l'humour?
C'est bien
vous
de...
aimez...
Oui, ouais, j'ai pratiqué 2 ans, en fait.
L'humour recyclable.
Là, je fais un petit break. Ouais, non, mais c'est vraiment super. C'est bien que vous en parliez ici. Moi, comme je dis, j'essaie de dire un truc à la fois parce qu'en fait, quand on abreuve les gens avec trop de trucs, j'ai l'impression que, et on en parlait encore hier, j'ai dit, je sais pas pourquoi on est mobilisé pour tellement de trucs, mais la fin du monde a l'air de mobiliser vraiment très peu de gens. C'est assez étrange quand on y pense bien, voilà, parce que il s'agit quand même de ça, hein. Plein de choses. Moi, j'aime bien déjà demander ce que je mange, savoir comment, est-ce qu'il y a des pesticides dedans. Donc, je dis même plus que je mange bio parce que déjà, parfois, ça lance des débats, mais c'est abyssal de conneries avec les gens. Alors, juste, maintenant, je dis, moi, je préfère manger sans pesticides, personnellement. Ouais. Et mes enfants, je préfère leur donner sans pesticides. C'est un choix, un goût personnel.
Peut-être moins de viande aussi, vous faites attention à ça.
Je mange moins de viande, peut-être une fois ou deux par mois, alors qu'avant, j'en mangeais vraiment tous les jours, quoi. Je suis un enfant des années 90. Mes parents, ils m'emmenaient au McDo et tout. Donc, voilà, il y a eu un changement drastique, quand même. Mm-hmm. Mais qui complètement possible, hein. Et voilà, après c'est un choix personnel, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà ça. Et puis encore une fois, demander au restaurateur quand on va dans un restaurant ou dans un endroit où soit évidemment ce qu'on achète, demander qu'est-ce que c'est, où c'est produit, comment. Je pense que ça va interroger aussi les gens qui se fournissent en grande quantité. Au bout d'un moment, un restaurateur, si 10 fois par jour on lui dit c'est un saumon avec plein d'antibiotiques dedans, et si on lui dit non, on va pas le manger, en fait peut-être qu'au bout d'un moment il va changer de fournisseur ou quoi. Donc demander, pas hésiter, pas avoir peur ou avoir honte de dire qu'est-ce que c'est, ça vient d'où, parce qu'il y a beaucoup cette honte, et moi je l'ai encore parfois quand je demande. Je me dis devant une tablée ça la fout mal, en plus les acteurs tu vois qui font chier et tout machin, je te jure j'y pense, je me dis putain, et en fait je me force à le faire en me disant ça se trouve ça fait un peu bouger le truc dans la tête des gens.
De demander si c'est un circuit court,
exactement, où c'est fait,
et aujourd'hui pas de bouteille en plastique, et on va s'y tenir ad vitam aeternam.
Je sais bien que les regards se tournent vers moi.
Il aurait qu'à nettoyer sa gourde qu'il a depuis 3 mois.
Vous ne demandez pas mon geste, mais j'essaye de coucher un maximum avec des filles qui votent vert. Je me dis, c'est
bien. On va passer au deuxième sujet, parce que c'est la poésie, ce serait dommage de s'en priver. Les bienfaits psychiques de la poésie, le haïku apollinaire ou les alexandrins sont entrés à l'hôpital. Ces bienfaits sont reconnus depuis longtemps, mais aujourd'hui ils sont mesurés. La poésie aide notamment à mettre des mots sur la maladie, la reconstruction et parfois à sortir du déni. Et puis déjà la poésie, c'est bien connu, ça apaise.
Écoute un peu ton cœur, il t'apprend la tendresse. Que désire ton âme, de la délicatesse.
C'est les inconnus, bien sûr, je la connais par cœur. Pierre Ninet, est-ce que la poésie vous a déjà consolé, voire sauvé ou guéri, accompagné du moins?
Oui, je pense. Moi, je suis pas un gros lecteur de poésie, mais j'ai étudié ça un peu comme tout le monde au lycée, sauf que je pense que j'avais plus d'affinité que d'autres élèves, et j'aimais beaucoup ça. Après, je pense que... Enfin, pour moi, les alexandrins, c'est aussi de la poésie, donc j'ai plus fait du théâtre et je suis très sensible à ça. On a beaucoup parlé sur ce film-là, Sauver ou périr, des Fleurs du Mal, de Baudelaire. Voilà, c'est un des grands sujets du film aussi, c'est comment l'art peut nous sauver. Franck, dans le film, après son accident, va aussi à travers des masques qu'il va se créer lui-même, la peinture, la musique, il va jouer du xylophone, enfin voilà, sans vendre tout le film.
Il regarde des tableaux d'Ansor.
Oui, tout à fait, tableaux d'Ansor, qui est un peintre belge, et il va va s'inspirer de ça, il va trouver un salut dans l'art. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je sais qu'au Canada, ils ont commencé à rembourser, la sécurité sociale rembourse maintenant des visites de musées prescrites par les médecins. Je trouve ça une très belle idée. Et au-delà d'être belle, en plus, je suis persuadé de son utilité.
Mmh. Vous, si vous deviez un jour vous reconstruire ou avoir une période de latence, est-ce que vous pourriez imaginer ça sans texte, sans poésie, sans l'art?
Non, mais bon, après, vous demandez ça à un artiste, donc je disais oui.
Mais dans quoi
coup,
vous
c'est comme le mec du plastique, il dirait qu'il faut produire moins de plastique.
Dans quoi vous pourriez vous réfugier de façon corps et âme?
La musique. Ah, moi, j'aurais adoré faire de la musique. Je trouve que c'est vraiment la quintessence de la catharsis, des sentiments, de l'émotion. Je trouve ça extraordinaire. Donc moi, la musique, je m'en sers beaucoup quand je tourne des films. J'ai toujours des playlists en fonction des personnages ou des films que je travaille. Et ça, c'est, je pourrais pas me passer de la musique.
Et votre personnage, il a une forme de poésie aussi quand il est en pleine reconstruction et qu'il ne peut pas parler pendant des mois et des mois. Il y a quelques monologues dans le film qui sont assez prenants. Et là, il y a une forme de. Est-ce que pour un acteur, il y a une forme de poésie à dire ces choses-là qui sont très fortes, qui sont.
Oui, complètement. En plus, j'étais très très sensible à la façon, enfin à l'écriture de Frédéric Tellier, qui lui adore la poésie et qui, je trouve, a beaucoup de délicatesse, de pudeur et de poésie dans ses dialogues et dans les scènes. Donc ça, c'est génial pour un acteur de recevoir un scénario. On est déjà bouleversé par les mots qu'on va devoir dire. On entend déjà la musique, on a envie de la jouer. Ça c'est génial.
Pierre Ninet avec nous. Et de mots, il en est question, car Juliette Arnoux est en notre compagnie.
Oui, enfin, on est surtout avec James Baldwin, et c'est heureux, Hosanna. James Baldwin est redevenu un auteur à la mode en France, qui est quand même le pays où il avait choisi de s'exiler dès l'âge de 24 ans. Parce qu'aux États-Unis, c'est trop compliqué d'être noir et homosexuel et sans envie de faire profil bas. James Baldwin disait « J'aimais mon pays, mais je ne pouvais pas le respecter ». Et puis grâce au succès du film de Raoul Peck, « I'm not your Negro » en 2016, on réédite ses livres. Celui-ci, « Le diable trouve à faire », bien que de 1976, est tout neuf chez nous, il n'a jamais été édité. C'est heureux, Hosanna de Rechef, parce que James Baldwin est un écrivain radical, qui est un adjectif qualificatif à la mode. Sauf que James Baldwin était radical pour de vrai. Pas comme quand un magazine féminin propose une mode d'hiver radicale. Par exemple, collection radicale chez Dolce & Gabbana. Hein, ça veut rien dire. James Baldwin est radical latiniste. Parce que radical vient du mot radix, qui est la racine. Baldwin, c'est le dentiste qui te dit après inspection de tes keynotes « Ah ouais, mais là, va falloir creuser dans les racines et toi, tu chiales. » Eh bien, Baldwin, c'est le même combat, mais en bien. Christiane Taubira a trouvé une formule plus juste, moins flippante à propos de lui. Elle dit que Baldwin est un écrivain qui vous oblige à regarder le soleil en face. Dans ce livre, c'est le cinéma que James Baldwin t'oblige à regarder en face, avec un angle que sans lui, moi par exemple, je n'aurais pas, parce que lui, il est noir. Et en cinéma, il touche sa bille. Alors évidemment, c'est pas Laurent Delmas ou Christine Masson, mais enfin, il était quand même coloc avec Marlon Brando. Alors qu'est-ce qu'il fait, James? Il dévide ses souvenirs de petits garçons dans les salles obscures, et on apprend par exemple son amour dès qu'il est tout petit pour Betty Davis. C'est bizarre, non? Eh ben non. Il s'identifie à elle, lui qui sent, et je le cite, un petit nègre moche et stupide, à elle, parce qu'elle a comme lui de gros grands yeux exorbités. Lui, il les tient de son père, qu'il a abandonné, qu'il n'a pas connu, et qui lui a seulement laissé ces drôles d'yeux-là qui le différencient de ses frères et sœurs. Et puis, James Baldwin grandit, il cesse pas d'aller au cinéma, et arrivent les années 60, avec tous ses films pleins de bonnes intentions, pour les Noirs, semble-t-il. Mais les bonnes intentions, on sait que l'enfer est pavé avec. Alors autant on emporte le vent en 1939, c'est facile de voir ce qui cloche, hein, même pour des yeux blancs comme les miens. Mais quid de « Devine qui vient dîner ce soir », vous savez, Sidney Poitier, 1967. Avant ce livre, je pensais « Ah, c'est chouette, ça change !» Ben en fait, pas tant que ça. Baldwin y décrit méticuleusement, penchez-vous dessus, c'est instructif. Cet épisode ou celui de l'année suivante, en 68, quand on lui propose d'écrire l'adaptation de l'autobiographie de Malcolm X. Ça tombe bien, il le connaît très bien, Malcolm X. Épisode qui se conclut par « Je préférerais me faire fouetter que de revivre une telle aventure ». C'est que voilà, on touche à une équation de base du cinéma. Et je le cite, lui, l'écrivain, « Un film est destiné à être vu, idéalement. Moins il parle, mieux c'est. » Méfiance des mots, les images doivent tout dire. Et là où c'est ennuyeux, c'est que la violence, c'est terriblement photogénique. Ça déclasse même à peu près tout le reste en termes d'efficacité. Exemple tout à fait au hasard, ce week-end à la télé, on aura vu que la violence prend mieux la lumière que la sororité souriante de 15 000 femmes dans les rues de Paris. Bisous les médias, on s'est pas trop vu à la marche des femmes, on s'appelle, on se fait une bouffe. Voilà, pas d'amertume, on finira bien par se comprendre, nous et les autres, mais j'ai la sensation que ça ira plus vite à coup de lectures radicales. Entre autres, Le Diable trouve affaire. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, rappelez-nous l'éditeur.
Alors, c'est une toute petite boîte d'édition qui s'appelle Capricci et qui fait des très jolis livres.
Merci Juliette Arnaud. Toutes les références sur franceinter.fr, bien sûr. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Ninet, qu'on peut voir au cinéma dès mercredi dans Sauver ou Périr de Frédéric Tellier. Et on va aborder avec vous ce dernier sujet. La première œuvre d'art produite par une intelligence artificielle a été vendue fin octobre chez Christie's à New York, adjugée 380 000 euros. Depuis, ces auteurs, je mets auteurs entre guillemets, n'osent plus décrocher leur téléphone tant ils sont sous le feu des critiques. Le portrait d'Edmond Bellamy, c'est une juteuse affaire et c'est amusant quand on a mis pour titre Bellamy. Mais ça, les auteurs s'en sont pas rendus compte parce qu'ils sont pas très portés sur la littérature, disent-ils. La peinture par une intelligence artificielle, comment ça marche ?
Mélanger l'ocre, le jaune et le vermillon. Se placer en bas de la planche et démarrer tout droit. Dans 5 cm, tourner à droite.
Oui, merci, d'accord, on a compris. Le GPS à peinture à l'huile, c'est une idée originale de notre réalisatrice, Anne-Sophie Ladonne, qui s'amuse comme ça pendant la journée. Le Monde, daté d'hier et aujourd'hui, a publié une grande enquête. Demain, l'art sans artiste, point d'interrogation. Et là, je parle au fils d'une professeure d'art plastique, n'est-ce pas, Pierre Ninet ?
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Vous avez le portrait sous les yeux, vous pouvez le trouver chez vous, si vous tapez le portrait d'Edmond Bellamy, avec un Y à la fin, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc, le principe, c'est 15 000 portraits classiques qui ont été rentrés dans une machine. Un ogre, en gros, je vous simplifie, mais on appuie sur un bouton et puis le portrait sort. Et c'est adjugé 380 000 euros. Alors, on se demandait quel regard vous portez là-dessus, vous.
Je ne sais pas trop. Non, c'est assez effrayant, mais je pense que ça restera des choses très marginales. Enfin, j'ose espérer, parce que ce qui nous intéresse quand même toujours, que ce soit dans du drame, de la tragédie, des arts plastiques, c'est l'humain, quoi. Mm-hmm. C'est de se reconnaître dans quelqu'un qui est notre semblable et qui peut avoir ressenti des choses similaires ou qu'on connaît pas et qu'on veut découvrir. Mais c'est toujours quand même l'humain, quoi. Moi, je m'intéresse beaucoup au rire, où ça peut avoir rien à voir, mais je suis assez fasciné depuis que je suis petit, moi, par le rire. Je trouve un espèce de mécanisme complètement fou quand on y pense, une espèce de saccade d'air qui n'a aucun sens et voilà, et que vous pratiquez quotidiennement et que tout le monde devrait pratiquer. Et en fait, le facteur commun, c'est quand même à toutes les vannes et tous les trucs, c'est de reconnaître quelque chose d'humain et d'imparfait. Mm-hmm. Donc d'un coup, c'est une machine, je vois plus trop l'intérêt, évidemment, mais comme ça, pour une expérience, c'est intéressant, mais je pense pas...
Oui. Et quand la machine a battu l'homme aux échecs, ça a été quand même un début et donc on avait parlé ici d'une machine qui... Mm-hmm. En y mettant toutes les chansons des Beatles, c'était capable d'en faire une nouvelle. Donc oui, c'est un peu angoissant. Elle n'était pas terrible.
C'est vrai.
Ouais. Mon avis, c'est Ringo Starr qui l'a écrit.
Qu'est-ce qu'il est mesquin.
Oui, pour un one shot, l'expérience est intéressante, mais
c'est pour ça. C'est pour ça que ça coûte si cher.
Oui.
Parce que c'est le premier.
Ça va plus. Oui, ça va rapporter moins après.
Mais qui prend les 384 000 $?
Ah,
c'est l'équipe. C'est l'équipe qui a fabriqué le logiciel.
L'équipe qui a fabriqué 3 francs. Ils ont une vingtaine d'années, ils ont 25 ans à peu près.
Mais ils donnent quand même des directions, forcément, avec les tableaux qui rentrent, ils doivent donner des directions
ils
à la machine qui oriente.
Ils ont rempli 15 000 portraits de certaines périodes dans la machine.
Oui, c'est ça. Donc il y a déjà des choix, il y a déjà un choix artistique en fait.
D'une certaine manière.
Apparemment, oui, on est assez 15e siècle quand même, non ?
Oui, tout à fait. Ouais. Je vous renvoie à l'article du Monde, c'est Le Monde daté d'hier et d'aujourd'hui, donc que vous pouvez consulter avec une longue enquête, une double page qui répond à toutes ces questions. Pierre Ninet, justement, le rire, la comédie, ça vous dirait de jouer avec nous ?
Enfin, je vais filer, moi.
C'est surtout à nous que ça dit de jouer avec
J'écoute
vous.
J'écoute votre émission des fois et je me dis toujours, ah tiens, ça, je le ferais vraiment pas avec plaisir. C'est nickel.
Vous rigolez. On a pris exemple sur casting. On avait adoré, évidemment, cette série où vous faisiez des castings de type de films. Ici, casting parce qu'il faut trouver un porte-parole au gilet jaune. Et on s'est dit, voilà, c'est le moment. Charline est directrice de casting et vous allez revenir plusieurs fois avec Guillaume, notamment. On y va tout de suite.
Bonjour.
Oh, bonjour.
Alors, dites-moi pourquoi on vous choisira en tant que porte-parole des Gilets jaunes.
Oh, rage, oh, désespoir, oh, gilet trop jauni, n'ai-je donc tant vécu que pour cette Macronie. C'est pourquoi, contre elle, je me veux porte-parole pour jeter de l'espoir et un peu de vitriol.
Oui, très bien. Et quelles seront vos priorités en tant que porte-parole ?
Que l'essence plonge enfin, que le diesel s'enterre sans que jamais ne soit réélu Jupiter.
Ah non, 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 non. Beaucoup trop de drames dans le style. On vous rappellera.
Salut mes petites beautés. Alors, vous cherchez un porte-parole d'Arca ?
D'Arc quoi ?
D'Arc.
vodka, ma chérie. On va se foutre de ces bordels. Je vous annonce tout de suite. En plus des gilets jaunes, on va se foutre des nouilles dans le slip. Ça va être la folie.
Ah non. Merci, monsieur Hanouna, ça ira. Merci. Alors, dites-moi, comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Gilles.
Ah ouais, très drôle. Vous voulez venir avec.
Avec John, pour faire Gilles et John. Gilles et John.
Excellente.
Merci, ouais, je l'ai trouvé sur Internet. Ouais.
Voilà. Qu'est-ce que vous proposez en tant que porte-parole du groupe?
Eh ben voilà, en fait, on va faire une alliance avec les bonnets rouges. Et comme ça, on sera habillés pour l'hiver, si tu vois ce que je veux dire.
Super, oui. Je vous proposerai pour Camping 4 alors. Hein.
Ouais. Sinon, mes petites beautés, je vous propose de rebaptiser les gilets jaunes en les appelant les babas jaunes. Ça claque comme nom.
Non, monsieur Hanouna, j'ai dit non, ça va. Allez, hop, au suivant. Ah ouais, donc là, vous êtes carrément venu à deux, ouais. Là.
Ouais. Ouais, alors là, je suis venu avec mon camarade. Ouais. Je propose qu'on soit des porte-paroles musicaux, en fait. Ouais,
on est les gilets jaunes de Rochefort. Nous fumons tous les deux, choqués par le prix de l'essence. Quant à l'écologie, ça, on s'en balance.
C'est vrai que c'est facile d'être un ours polaire. Ils ne devront jamais faire le plein d'une Chrysler.
Bon, j'en peux plus, là. Allez, un dernier candidat. Alors, je vous préviens, on recherche un porte-parole simple, sobre, capable de rassembler et d'unir tous les courants des gilets jaunes. Hein.
Ouais, non, je vois l'idée, mais je la sens pas.
Merci Pierre Ninet.
Merci à vous.
Il est tout terrain ce Pierre Ninet.
Eh oui, évidemment. Pierre Ninet, qu'on retrouve donc au cinéma à partir de mercredi dans Sauver ou Périr, film de Frédéric Tellier, avec Anaïs de Moustier, Chloé Stéphanie, Vincent Rottier, Samy Boisgila, Damien Bonnard, Calypso, Buitenhuis et Rosa Burstein.
Bien joué.
Merci beaucoup Pierre Ninet.
Merci à vous.
Merci.
Non, merci,
à tous les
mais
amis.
Tu veux absolument parler.
Nique
la fin d'émission.
Pas dire,
tout allait bien jusque-là.
Parce que je vous laisse le mot de la fin.
Le pire truc qui pourrait arriver, c'est qu'un mec me reconnaisse juste avant de mourir et me dise j'ai détesté Yves Saint-Laurent.